Et lorsque le temps sera accompli et que la totalité sera entrée, alors le Seigneur reviendra comme il l'a promis. Et je crois effectivement que nous en serons les témoins, que nous l'expérimenterons, nous le vivrons personnellement. Je le crois de tout mon cœur, que nous serons témoins du retour de Jésus-Christ. Nous en prendrons part. Aucun d'entre nous ne peut dire combien de mois il y a devant nous, combien d'années, Dieu seul le sait. Et c'est bien ainsi, afin que nous puissions toujours veiller, prier et être prêts. Je voudrais lire quelques passages de l'Écriture. Et pour des raisons de traduction, je suis obligé de parler lentement, ce qui ne me convient pas du tout. Parfois, la parole me submerge tellement que je ne peux pas faire autrement. Puisse-t-il nous arriver à tous que la parole de Dieu nous submerge vraiment, nous emporte, nous pénètre comme une épée à double tranchant, et que nous nous sachions réellement transportés dans la présence de Dieu lui-même. Je voudrais demander que nous nous levions quand je lirai cette parole maintenant. Extrait de 1 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 8. Ici, parlant de la sagesse de Dieu, avant ou déjà à cause du contexte, disons le verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous l'a révélé. Nous a révélé ces choses, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, cette parole s'est réalisée au milieu de nous. Ce n'est pas nous qui avons sondé. Ce n'est pas nous qui avons révélé. Tu as envoyé ton esprit. Le même Saint-Esprit qui se reposait sur tous les prophètes et les apôtres. Tu nous as donné un cœur ouvert. Tu as ouvert notre compréhension pour l'Écriture. Nous n'interprétons pas. Nous recevons la parole de Dieu révélée. Seigneur bien-aimé, puisse-t-il se réaliser encore une fois aujourd'hui au milieu de nous, que ton esprit vienne sur nous et lui-même nous enseigne, nous conduise dans toute la vérité, nous révèle les pensées secrètes de Dieu lui-même. Seigneur fidèle, nous te rendons gloire à toi seul et plaçons délibérément cette réunion sous la couverture du sang de l'agneau. Satan a perdu son droit. Ici, c'est Dieu qui commande, le roi des rois parmi son peuple, le rédempteur parmi les rachetés. Sois avec nous dans ce service divin, parle à nos cœurs et donne un réveil, donne une faim et une soif envers toi et ta justice et apaise les par grâce, grâce à une puissante effusion de ton Saint-Esprit. Que la gloire, l'action de grâce et l'honneur te soient rendus pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très sincèrement reconnaissants au Seigneur pour la possibilité d'être réunis en ce lieu et d'en avoir la possibilité de toutes les manières possibles, même si parfois en ce qui concerne l'hébergement, il y a un peu de provisoire. Mais nous sommes néanmoins heureux de pouvoir être ainsi réunis et d'écouter ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, je voudrais souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Et comme l'a dit l'un de nos frères sur terre, nous ne verrons ni n'entendrons jamais ce que Dieu a fait dans le monde entier. Comme ce fut le cas à l'époque de Luther, de Wesley et de tous ces hommes, de Calvin et de Zwingli et de Schwenkfeld, et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, comme chaque fois, chaque message a été diffusé sur toute la terre, il doit en être de même maintenant. La parole de Dieu, dans sa pureté et sa clarté, en tant qu'évangile éternellement valable, doit être annoncé à tous les peuples et à toutes les langues comme un témoignage. Celui qui veut entendre, peut entendre, et que celui qui ne veut pas entendre, n'entende pas. Mais comme disait déjà le prophète de l'Ancien Testament, qu'ils sachent qu'un prophète a été au milieu d'eux. C'était un jeudi soir, je lisais quelques passages de Martin Luther, et soudain, il a fait cette expression, « Sachez que votre prophète vous a parlé. » Tout à coup, il ne se voyait pas seulement comme un réformateur, il se voyait comme un homme envoyé par Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas à nous de classer, car regardez, Jean était le plus grand prophète de l'Ancien, si on peut dire ainsi, de l'Ancien Testament, mais il n'a fait aucun miracle. Nous devons cesser de classer les ministères et les appeler et les appeler en fonction de ce que nos yeux voient ou de ce que nos oreilles entendent. Cela se passe toujours de toute manière telle que Dieu l'a fixé dans son plan du salut. L'a décidé conformément à son plan de salut, mais nous ne savons pas si Noé a fait un seul miracle. Mais il y a une chose qu'il a faite. Il a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Il a obéi, il a exécuté l'ordre divin. Ce n'est pas l'un qui copie l'autre, mais chacun a son mandat. S'il en a un, ce n'est pas une copie, ce n'est pas la copie d'un autre mandat, mais un original divin. Avec Dieu, il n'y a pas de copie et d'imitation. Il n'y a qu'un seul original, même dans le ministère des apôtres. L'un n'a pas copié ce que faisait l'autre. Chacun avait son domaine, sa tâche, son ministère. Et Dieu a agi de diverses manières. Dans le cas de Pierre, il suffisait qu'il marche dans les rues de Jérusalem. Et si son ombre se posait sur les malades, ils étaient guéris. Paul n'a pas fait cela. Pierre était un original. Mais en ce qui concerne Paul, nous lisons dans Actes apôtres 19 qu'on a pris de lui la sueur par des mouchoirs. Lui aussi transpirait en prêchant, pas seulement moi. Et on prenait ses sueurs, et on les apportait aux malades. et ils étaient guéris. Pierre a-t-il fait la même chose? Non. Chacun a reçu sa direction de Dieu. Ce n'est pas l'un qui copiait l'autre. Chacun se laissait utiliser et bénir par Dieu de la manière qui convenait au Seigneur. Les ministères de tous les prophètes étaient différents. Mais c'est un et un seul plan de Dieu, un et un seul programme de Dieu. Et ils faisaient tous partie de ce plan divin. Comme nous l'avons déjà dit, Jean, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, n'a pas fait un seul miracle, ni de signe, de prodige, mais il a fait la plus grande chose, ce que les miracles et les signes n'auraient pas pu accomplir. Il a ouvert la voie au Seigneur. Il a plané une route pour notre Dieu. Il n'a pas préparé une cause pour une dénomination ou pour un grand évangéliste. En lui s'est accomplie la parole de Malachie 3, verset 1. « Voici, je vous envoie mon messager devant moi. » Pas seulement un messager, mais mon messager. J'envoie mon messager devant moi. Parce que je viens de prononcer cela spontanément, je me souviens de la parole dans laquelle il est écrit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Il y en a beaucoup qui se disent prophètes et qui disent qu'ils sont prophètes, mais ils ne le sont pas. Dès le premier écrit adressé à l'église d'Éphèse, il nous est dit dans Apocalypse 2, « Tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et tu les as trouvés menteurs. » Il ne s'agit vraiment pas d'un prophète, mais de celui dont Dieu peut dire, « J'envoie mon messager devant moi pour qu'il me fraye le chemin. » Et c'est ce qui s'est passé. Le chemin a été frayé. Comme nous venons de le voir, aucun de ces hommes de Dieu n'a pu choisir ce qu'il devait faire, ce qu'il avait à faire. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moïse n'avaient pas le choix. Aucun n'a pu dire à Dieu ce qu'il devait faire. Mais Dieu a dit à tous ce qu'il voulait faire par eux. Quelqu'un a dit récemment, beaucoup font de Dieu un coursier. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, tu pourrais faire ceci et cela. Aujourd'hui, pourrais-tu faire ceci et cela, être ici et là, et aujourd'hui, ceci et cela. Non, nous devons retourner la page. Nous devons retourner le tout. Nous devons tout mettre devant Dieu, entre les mains de Dieu, et dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais le cri de détresse de ton peuple, la situation de chacun. Fais ce que tu veux. Bien sûr, nous pouvons présenter des requêtes de prière au Seigneur, mais pas de manière à lui dire tout ce qu'il doit faire. Dans la prière, nous le soumettons au Seigneur et croyons qu'il le fera, car il l'a promis. L'important est toujours que nous ayons une promesse dans la parole de Dieu pour ce que nous croyons. C'est absolument nécessaire. Si nous n'avons pas de promesse, nous ne pouvons pas non plus croire, selon l'Écriture. Il m'est apparu important et est devenu grand pour moi que Dieu a en effet tout accompli. Et je me suis posé la question suivante. Si, par exemple, le Christ était simplement mort et avait été mis au tombeau, cela n'aurait pas été une affaire complète. Vraiment pas. Dans ce cas, comme dans beaucoup de cimetières, une pierre tombale aurait été érigée et on aurait peut-être écrit dessus « Ici repose en paix, tel et tel ». Non, il n'a pas seulement été crucifié, mort et enterré. Il est ressuscité. Il est vivant. Le tombeau est vide. Vous pouvez en particulier, dans notre pays, aller dans les cimetières. Ce sont tous des parcs, ce sont des installations magnifiques, mais partout il y a quelque chose d'écrit. Pour notre Seigneur, ce n'est pas nécessaire. Il est ressuscité. Il est vivant. Le vendredi saint, sans la Pâque, ne serait pas une chose parfaite. La Pâque en fait partie. Le Seigneur est descendu dans les lieux les plus bas et a prêché à ceux qui avaient désobéi au jour de Noé. Celui qui lit attentivement la Bible pourrait se demander pourquoi il n'a pas prêché à tous. Pourquoi est-il spécifiquement écrit qu'il a prêché à ceux qui avaient désobéi au jour de Noé? C'est à cette époque que le mélange entre les deux lignées a eu lieu. La lignée de Seth s'est mélangée à celle de Caïn. La lignée de Seth était les fils de Dieu et la lignée de Caïn était justement les autres. Et l'Éternel Dieu dit, « Je me répands d'avoir créé l'homme, car il est cher et il fallait qu'il y mette fin. Et parce que ces fils de Dieu, la lignée de Seth, n'a pas écouté le message prophétique de Noé, le Seigneur a dû le leur dire là-bas. Bien-aimés, il y a une parole. Et vous pouvez dire que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais oui, donc c'est justement écrit dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, et c'est connu dans le monde entier, toute la Bible est la parole de Dieu. Deux Chroniques, chapitre 20. Deux Chroniques, chapitre 20, la dernière partie du verset 20. Écoutez-moi, Judée, Judéens et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes et vous serez vainqueurs. Pas en n'importe qui. Pas en n'importe qui se prétend prophète, mais à un porteur de la parole fraîche, vivante, venue de Dieu. La parole révélée, fraîche, venue de Dieu, vivante. Un prophète, la parole vivante, n'est pas un prophète n'est pas un théologien qui médite sur l'Écriture jusqu'à ce que quelque chose en sorte. Un prophète est sous l'inspiration directe divine. Il lit l'Écriture, mais pendant qu'il lit l'Écriture, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation vient sur lui et il voit et il entend ce qui était caché auparavant. Il est simplement nécessaire de bien comprendre le plan de Dieu et en général toute l'œuvre de Dieu avec l'Église. Ce sont les prophètes qui ont prédit ce qui allait arriver et qui s'est ensuite produit à la Pentecôte. Et après, permettez-moi de lire le chapitre 28 du prophète Ésaïe, puis d'autres passages. Ésaïe, chapitre 28. Nous avons ici la différence à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Du verset 11. Versets 11 et 12. Ésaïe 28. Oui, c'est par des hommes aux lèvres bégayantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Arrêtons-nous un instant avant d'aborder acte 2. Avez-vous bien écouté ou lu? C'est par des hommes aux lettres bégayantes et à la langue étrangère, qu'il, ce n'est pas toi, pas moi, mais qu'il parlera à ce peuple. L'homme, les croyants, ne sont que le récipient. Le Saint-Esprit remplit le récipient. Le vase s'empare du cœur, de la bouche, des lèvres, de la langue. saisit l'être humain et laisse Dieu ensuite parler à travers lui. Il se laisse. Avons-nous compris cela? Nous y viendrons dans un instant. Mais je veux juste vous montrer à quel point la parole de Dieu est précise et que ce qui s'est passé avait déjà été dit à l'avance dans la parole de Dieu. Comment est-ce que cela allait se passer? Dieu veut parler. Et c'est pourquoi il est si bien écrit. Tel que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Voilà le mystère. Le même esprit qui est toujours descendu sur les prophètes, le même esprit qui est descendu sur le Christ lors du baptême, le même esprit est venu à la Pentecôte pour rassembler le corps du Seigneur. De nombreux membres avec des tâches différentes, mais celui qui agit, celui qui parle, c'est toujours l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui présentent leur sagesse. Mais qu'est-ce que Paul a-t-il écrit ici aux Corinthiens? Dans la parole que nous venons de lire, nous présentons la sagesse cachée de Dieu. Et il dit ensuite, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au verset 10, il prend la parole et dit, mais c'est à nous que Dieu a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas d'homme qui puisse comprendre ou expliquer Dieu par l'intellect, mais nous pouvons tous expérimenter Dieu. Nous pouvons tous faire l'expérience d'une inspiration divine qui vient sur nous. Une onction sainte où ce n'est pas l'homme qui veut, mais où la volonté de l'homme est placée dans la volonté de Dieu. Et où nous disons simplement, Seigneur, maintenant, tu prends le contrôle sur moi. Je suis ici comme ton vase et je me tiens simplement à ta disposition. Je suis à ta disposition. Oui, c'est par des hommes aux lèvres bégayantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Lui, verset 12, maintenant, Ésaïe 28, verset 12, lui qui leur a dit ceci est le lieu de repos, donner du repos à ceux qui sont fatigués. Et ceci est le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Frère Rousse l'a déjà mentionné, cette précieuse parole de Jean 8. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas l'entendre. Parce qu'il n'a pas été engendré et né de la semence de la parole par l'Esprit. Nous devons devenir parents avec Dieu, être de sa nature. C'est ce qui compte. Nous devons être sortis de la nature de Dieu par un engendrement. Comme les fils et les filles terrestres sont issus et sortent et existent par procréation, par engendrement. C'est pourquoi Jésus a dit, je te le dis en vérité, il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jésus-Christ, en ce qui concerne son corps humain, a été engendré par l'Esprit. C'est ainsi que Dieu a donné un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle création divine à laquelle nous pouvons appartenir par grâce. Comparons cette parole que nous venons de lire dans le prophète Ésaïe 28, avec 1 Corinthiens 14, et vous constaterez que c'est Paul qui la mentionne ici. Dans la lettre aux Corinthiens, il parle de l'utilisation des dons spirituels presque dès le premier verset. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, versets 20 et 21. Frères, chers frères, ne vous montrez pas comme des enfants dans le jugement. Non, dans la méchanceté, vous devez être des enfants. Mais en ce qui concerne le jugement, montrez-vous comme des adultes. Voici maintenant le verset d'Ésaïe 28, 11 et 12. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes de langue étrangère et par des lèvres étrangères, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur, que je parlerai. Une parole très sérieuse. Imaginez maintenant que la Pentecôte a eu lieu, la fête de la Pentecôte a eu lieu, l'Esprit Saint fut répandu et les gens se mirent à parler dans d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là encore, le groupe était divisé. Les gens rentraient en eux-mêmes et acceptaient. Les autres s'agitaient et disaient, « Ceux-là sont pleins de vin doux. » Mais Dieu ne nous a pas laissés sans la réponse. Il a confirmé sa parole. Il a tenu sa promesse. Il a parlé. Il a parlé par des lèvres étrangères, comme il avait prédit, comme il avait promis, par des lèvres balbutiantes, avec des langues étrangères. Et ce qui est magnifique, c'est que tous ont compris en même temps, dans leur propre langue, ce qui était dit. Avez-vous déjà pris cela à cœur et l'avez-vous compris? Je le lirai tout à l'heure. Mais pour confirmer cette parole ici, en ce lieu, nous avons reçu une chose de Dieu, c'est de prêcher toujours l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble comme un tout indissociable pour montrer que Dieu est un Dieu, est un Dieu véritable et que chaque promesse qu'il a faite, c'est littéralement et oui, littéralement accompli mot à mot. Ainsi, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes, il relit le verset 21 de 1 Corinthiens 14, c'est par des hommes de langue étrangère et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ici encore le mot moi, ils ne m'écouteront pas. Il ne s'agissait pas alors de savoir s'ils écoutaient Pierre ou non. Ce n'est pas la question. La question était de savoir s'ils écoutaient le Seigneur Dieu qui maintenant, par la bouche des apôtres, parlait, et en général, par ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est écrit ici. Même si ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est un ainsi parle le Seigneur. Pas un discours appris, pas un discours fabriqué. Mais une prédication inspirée par le Saint-Esprit, un discours de l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit à travers des lèvres humaines. Et alors, c'est la parole de Dieu à ce moment-là, et à ce moment-là seulement. Et c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est contraignante, car c'est ainsi que s'est déroulée la parole du Seigneur au prophète. Est venue la parole de Dieu au prophète. Ils entendaient en effet la voix directe du Seigneur. Et ensuite, la même inspiration divine leur est venue par le Saint-Esprit. Et ils ont pu mettre par écrit ce qui leur avait été révélé par l'Esprit. Bien-aimés, nous n'avons pas affaire à des hommes que Dieu utilise, par lesquels il parle. Nous avons affaire au Dieu vivant lui-même qui a voulu que des hommes parlent. Porte la parole de Dieu à d'autres hommes. Imaginez qu'il ait désigné toute une armée d'anges pour nous annoncer la parole, l'évangile. Oui, que saurait-il que serait-il, qu'est-ce que les anges auraient pu savoir de notre misère, de notre détresse, de notre état de chute dans le péché? Que voulaient-ils nous dire? Qu'est-ce que les anges auraient pu nous dire? Comment allaient-ils? Et nous le dire, seuls ceux qui ont été sauvés eux-mêmes peuvent témoigner du salut pour une fois. Dieu, c'est ainsi, Dieu a besoin de personnes qui l'ont expérimenté pour annoncer la parole ensuite, afin que d'autres puissent aussi l'expérimenter. Ensuite, au verset 22, Paul continue, 1 Corinthiens 14, verset 22. Ainsi donc, le parler en langue est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, en est un nom pour les non-croyants, mais pour les croyants. Nous ne pouvons pas entrer aujourd'hui dans l'enseignement sur les dons spirituels. Tout cela aussi va encore venir, mais on pourra encore le faire, mais ça a déjà été fait en partie. Ensuite, encore une fois, l'accent est mis sur ce terme, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. De même que Dieu a envoyé les prophètes avec le « ainsi dit le Seigneur » et que Jésus a dit très clairement de ceux qu'il a envoyés, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Il existe pour cela un grand nombre de passages bibliques. Et puis Jean en arrive à cette explication et à cette constatation. Celui qui est de Dieu nous écoute. 1 Jean 4, verset 6, une parole tout à fait glorieuse. C'est la pierre de touche. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 6. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. Mon nouveau livre devrait s'intituler « Vérité ou tromperie ». La plus grande tromperie qui soit se trouve dans les religions. Et là, l'une n'a pas du tout besoin d'accuser l'autre. L'une est aussi bonne et aussi mauvaise que l'autre. Et nous ne jugeons pas aujourd'hui. Mais quand les hommes ont trouvé grâce devant Dieu et ont dû et pu se séparer de toutes les traditions, à savoir de ce qui nous séparait de Dieu, un homme qui cherche le lien avec Dieu doit se détacher et se séparer de tout ce qui a interrompu ce lien. Ce n'est qu'en éliminant ce qui a rompu notre lien, c'est seulement en le mettant de côté, tout ce qui a rompu notre lien avec Dieu, c'est seulement comme ça que ce lien peut être rétabli par la grâce. Et je crois que Dieu est à l'œuvre, qu'il est puissamment à l'œuvre pour rétablir ce lien qu'il a établi avec nous, y compris de notre part. Vous savez que Dieu a pris forme humaine en Christ, car Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Mais l'homme doit consentir à cette réconciliation. C'est comme une alliance, comme un contrat. Et Jésus a dit, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance. » Dieu a conclu une nouvelle alliance avec tous ceux qui deviendraient croyants. Tu dois être inclus dans cette alliance. Un seul homme ne peut pas conclure une alliance. Il faut être au moins deux. Et ces deux-là, je les connais parfaitement. C'est-à-dire toi et Dieu. Pas un troisième, pas un quatrième. Toujours deux. L'expérience personnelle avec Dieu ne peut pas être transmise aux enfants et aux petits-enfants. C'est une chose très personnelle. Tu dois dire oui au Seigneur, Dieu, et dire, mon Rédempteur, tu as conclu l'alliance avec moi à Golgotha. Maintenant, je consens à cette alliance et je veux marcher avec toi à partir de maintenant. Lisons dans le prophète Joël, le deuxième passage de l'Ancien Testament concernant l'effusion de l'Esprit. Dans les Bibles allemandes, c'est le chapitre 3. Dans certaines autres, c'est la fin du chapitre 2. Mais ici, dans Joël, c'est le chapitre 3 du verset 1. En français, chapitre 2, verset 28. Après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair. Arrêtons-nous là encore. Le Saint-Esprit est-il quelqu'un d'autre que Dieu lui-même? C'est Dieu qui parle ici et qui dit, et après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. De même que Jésus-Christ était la forme et la forme visible de la révélation du Dieu invisible, et que Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu voit le Père. C'est la deuxième chose que l'on voit ici, à savoir, non seulement Dieu avec nous en tant qu'Emmanuel, mais Dieu maintenant en nous par le Saint-Esprit. Alléluia! Dieu en nous, il veut faire sa demeure en nous. Et après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit, l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, puisque nous avons reçu l'Esprit de la filiation, oh, les gens ne comprennent pas le plan de la rédemption de Dieu. Et cela me chagrine. Ils s'arrêtent à certaines formulations et ne savent pas pourquoi il devait en être ainsi. Qui a répandu l'Esprit? Il est écrit ici. Donc, parlant de Dieu, le Seigneur, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si je vous lis maintenant dans le Nouveau Testament que Jésus a répandu l'esprit, que se passe-t-il alors? Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que je dois faire alors? Après tout, c'est une étude biblique. Demandez-le de lire, lisons-le dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ici, il est écrit, après, je reviendrai plus tard sur le début avant la fin, mais j'aimerais que vous voyez celle-ci comme elle a été joliment formulée. Actes des Apôtres, chapitre 2, en référence à Jésus, il est dit ici à partir du verset 32. Actes des Apôtres 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a maintenant, comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. Avez-vous tous lu? Voici la séquence. L'ordre. Jean a prêché avec force en disant, celui qui vient nettoyera et balayera son air, et c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Voici le mystère divin avec Christ et l'Église. Et je le dis maintenant avant de l'oublier, cela vient juste. Paul a écrit à plusieurs reprises que le mystère du Christ et de l'Église lui était qui était resté caché depuis la fondation du monde, lui a été révélé, à savoir que les païens ont également été incorporés, prennent aussi part, la racine est Israël, mais les branches naturelles ont été arrachées, retranchées, et les branches de l'olivier sauvage y ont été greffées. Mais ce n'est pas tout, il y a encore plus. Le Christ il y a encore plus ici. Le Christ, en tant que fils, en tant que rédempteur, a dû premièrement expier pour tous les rachetés, prendre sur lui le châtiment, prendre notre place. Il a dû mourir. En tant que premier-né, il devait prendre la place de tous ceux qui naîtraient également de l'Esprit, et il l'a fait. Puis, il a été élevé, comme il est écrit, et afin que nous puissions recevoir l'Esprit de filiation et nous exclamer « Abba Père, le Fils qui a accompli l'œuvre de la rédemption a reçu l'Esprit de Dieu pour que le même Esprit qui est maintenant appelé l'Esprit du Fils, qui n'est seulement pas maintenant ici l'Esprit de Dieu, mais appelé l'Esprit du Fils, mais car c'est le même Saint-Esprit qui, en tant que Fils et Fille de Dieu, non seulement nous donne une nouvelle vie par la nouvelle naissance, mais nous place dans notre position de fils et de fille, et que nous puissions crier à Papa Père. Il y aurait également beaucoup à dire à ce sujet. Les passages bibliques ne manquent pas. C'est Jésus qui baptise d'esprit et de feu. Il a racheté et il baptise les rachetés, mais il baptise de l'Esprit de Dieu tous ceux qui lui ont été donnés. Car il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui l'attirent viendront à moi. Et c'est ainsi que nous voyons l'ordre. En Christ, Dieu a pris un nouveau départ. Il a fait un nouveau commencement. Et on ne le soulignera jamais assez. Adam était à l'image de Dieu, mais pas de la nature de Dieu. Il n'avait pas la vie de Dieu. Il marchait avec deux pieds comme Dieu. Ses mains avaient cinq doigts comme chacune comme les mains de Dieu. L'Éternel ainsi. Mais il n'était pas sorti de Dieu. Il avait été formé, façonné. Il en va tout autrement de Jésus. Jésus est la révélation de Dieu lui-même. Et les théologiens et les professeurs utilisent ici la formule il sortit de lui-même. On ne peut pas expliquer Dieu, je ne veux même pas essayer, mais d'une manière ou d'une autre, par la révélation de l'Esprit, nous réalisons et voyons ce que Dieu avait prévu et comment il réalise son plan avec l'humanité pour avoir finalement des fils et des filles de Dieu achevés, qui portent sa nature, qui ont sa nature divine, qui sont sortis de lui, qui sont issus de lui, sortis de lui. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pourquoi il est également écrit ici qu'il a répandu l'Esprit. Je vais vous le lire. Je vais vous lire un autre passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 15, où il l'a encore dit très clairement dans Jean 15, verset 26. Jean 15, 26, mais quand viendra le soutien que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia! De même que le Fils est sorti du Père, de même l'Esprit est sorti du Père. De même que le Fils, aussi certain que le Fils nous a rachetés, nous avons été faits fils et filles de Dieu. C'est aussi certain que nous avons été faits fils et filles de Dieu. Tout a été écrit dans une merveilleuse et divine harmonie. Il suffit de bien le comprendre. Et la bonne compréhension ne vient que par la révélation. J'ai dû lire beaucoup de choses sur le sujet de la divinité, ce que beaucoup ont dit sur le sujet de la divinité. Et on ne juge pas cela, que cela soit l'un de nous, mais Dieu ne peut jamais être sondé, même pas en comparant des passages bibliques à l'autre. Le même Esprit de Dieu qui se reposait sur les prophètes et les apôtres doivent se reposer sur nous si nous voulons voir ce qu'ils ont vu, entendre ce qu'ils ont entendu et comprendre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris. Seul l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Nous avons déjà lu en partie Joël 2, verset 28. Il y est en effet écrit que Dieu répandra son Esprit. Et dans le Nouveau Testament, il nous est montré comment cela s'est ensuite produit par la grâce. Joël chapitre 2, je relis encore cela jusqu'à la fin du verset 28. Joël 2, verset 28 en français. Et après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que que vos fils et vos filles parleront de façon prophétique, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. Oui, aussi sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce mot-là, en ces jours-là, la parole en ces jours-là, je n'en parle pas. Je n'en parle que très brièvement dans le livre. Que peut-on y dire? Les prophètes ont parlé de ces jours. Et ces jours sont venus sur nous, à savoir cette période de 2000 ans. Car un jour auprès de Dieu est comme nos 1000 ans. Permettez-moi de lire cette parole du chapitre 2 des Actes des Apôtres, et plus précisément du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 14. Alors Pierre, Actes des Apôtres 2, verset 14. Alors Pierre s'étant joint aux 11, s'adressa à eux en ces termes, élevant la voix. Hommes juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes-là ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ce n'est que la troisième heure du jour. Non, c'est ici que s'accomplit la promesse du prophète Joël. Dans les derniers jours, cela arrivera, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos jeunes gens auront des visions et que vos vieillards recevront des révélations en songe. Ainsi, l'expérience de la Pentecôte, de la Nouvelle Alliance, nous est présentée sur la base de la parole prophétique de l'Ancien Testament. Pierre ne dit pas « je pense », il a dit « ici s'accomplit ce que Dieu a fait dire par le prophète Joël ». Et puis, cela vient comme le « ainsi dit le Seigneur, je répandrai mon esprit dans les derniers jours ». Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a été répandu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prier pour une effusion de l'Esprit. Il nous suffit de laisser Dieu nous donner la grâce de nous mettre dans la bonne position sous la prédication de la parole, afin que son esprit puisse tomber. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout le livre des Actes des Apôtres, ainsi que pour les autres chapitres qui relatent cette expérience. Car imaginez-vous que nous n'ayons que Actes des Apôtres 2 et pas aussi le chapitre 8, le chapitre 10, le chapitre 19 ou 4. Qu'est-ce que cela donnerait? Nous ferions alors un gabarit et mettrions tout le monde dans le même sac, ne laissant plus à l'Esprit de Dieu le soin de décider comment et quand il doit agir et donner ou offrir l'expérience. Regardez, en Actes 2, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'était une expérience unique dans l'histoire du salut, tout comme Golgotha, tout comme la résurrection. Ainsi, la Pentecôte était le couronnement, la conclusion de l'œuvre achevée de la rédemption de l'Église de Jésus-Christ. Mais de même que Golgotha doit se manifester dans notre vie, de même que la résurrection doit se révéler dans, que nous sommes ressuscités avec Christ pour désormais marcher en nouveauté de vie. De même, Actes des Apôtres 2 doit s'accomplir en nous pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais le ciel est ouvert, il est déjà ouvert. Il n'est plus écrit nulle part qu'il ne devait attendre que 10 jours. Qu'il devait encore attendre 2 jours. 10 jours. Ce n'est arrivé qu'une seule fois depuis la montée au ciel jusqu'à donc l'ascension, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Et voici ce qui est écrit d'une manière si merveilleuse dans Actes des Apôtres 2, au verset 1. Actes des Apôtres 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il s'éleva du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues leur apparurent, comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Je pense que cela devrait être souligné pour la véracité de Dieu et de sa parole, qu'ici, l'Esprit de Dieu, les langues de feu, ne s'est pas seulement posé sur 2 ou 3, mais sur tout, sur tous, sur chacun, tous ceux qui étaient là, pour tous ceux qui étaient présents. C'était la même expérience, la réception du baptême de l'Esprit, la nouvelle langue pour tous ceux qui étaient présents. Dieu a préparé cette expérience pour tous ceux qui étaient là, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Des langues de feu leur apparurent, comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Il n'y a pas eu d'échange entre eux, ni de paroles du genre « Si tu parles, cela me suffira ». Non, l'Esprit de Dieu vint sur tous, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et tous se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Non pas comme ils l'avaient appris, mais maintenant, c'était le Seigneur lui-même qui parlait à travers eux. Bien-aimés, la main sur le cœur. Si nous croyons que la fin doit maintenant être semblable au commencement, alors cette expérience doit aussi avoir lieu dans nos vies. L'Esprit de Dieu doit alors venir sur tous. Que nous entendions un grondement ou que nous ne l'entendions pas, je vous lis en effet les passages. Il n'y avait plus de bruit, mais le même Esprit Saint est descendu. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Ici, il est dit, brièvement, versets 16 et 17. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. En conséquence, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Si vous continuez à lire, vous constaterez que des gens ont vu l'effet de la réception du Saint-Esprit. Quel impact cela a eu? Il ne reste que le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Il leur offrit beaucoup d'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez que la puissance manifestée était visible. Même cet homme tordu qui était présent a tellement compris, que ici, ce ne sont pas seulement que des hommes aient imposé les mains, mais que c'est la puissance de Dieu qui descend et se manifeste par l'imposition des mains des hommes. C'était ainsi à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui. Je poursuis la lecture du chapitre 11 maintenant des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11. Ici, à partir du verset 12, il est écrit. Et l'Esprit me commanda d'aller avec eux sans aucune hésitation. Or, ces six frères ici présents m'accompagnaient aussi et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Celui-ci nous raconta donc comment il avait vu l'ange dans sa maison qui s'était tenu là et avait dit « Envoie à Joppé, chercher Simon, surnommé Pierre. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Comme je commençais à parler, le Saint-Esprit se répandit sur eux comme il se répandit sur nous au commencement. À la fin, nous devons revenir au commencement. Il n'y a pas d'autre chemin pour revenir. Plus de discours. Jeûner, prier, attendez. Les apôtres sont venus. Les gens sont devenus croyants. Des mains leur ont été imposées. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ici, au chapitre 10, que Pierre fait référence à partir du verset 44. Tandis que Pierre parlait encore de cette manière, le Saint-Esprit se répandit sur tous ceux qui écoutaient ses paroles. Alors les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent frappés du plus grand étonnement de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, afin qu'ils ne soient pas baptisés? Il ordonna donc qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Puis ils lui demandèrent de rester avec eux quelques jours de plus. Comme au commencement, il en fut de même plus par la suite. Croyons-nous vraiment de tout cœur que Jésus-Christ doit être le même parmi les derniers comme il a été parmi les premiers? Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les mêmes bénédictions, les mêmes expériences. Je vous le dis, celui qui n'a pas fait cette expérience biblique, l'ennemi le tourmentera de doutes et le tourmentera encore. Il ne se reposera pas en Dieu. Il n'entrera pas dans le repos de Dieu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ne l'aura fait. Ne l'aura pas amené dans ce repos-là et qu'il n'aura pas été scellé de cet esprit pour le jour de la rédemption de son corps. Mais les personnes qui ont fait cette expérience, le diable ne les laisse pas en peine non plus, mais il les tourmente de diverses manières. Mais si nous avons fait cette expérience, alors nous pourrons dire, Satan, arrière de moi, car j'ai fait cette expérience dans telle et telle réunion, à tel et tel jour et telle date, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Oui, le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a parlé à travers moi dans de nouvelles langues. Et je voudrais aussi lire ce qui a été dit. Car la plupart des gens ne sont pas non plus au courant de cela. Dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, au verset 5, on nous énumère 16 ou 17 nationalités différentes qui étaient réunies le jour de la Pentecôte. Puis, au verset 11, il est dit ici, puis juifs de naissance et païens ayant adhéré au judaïsme, crétois et arabe, nous les entendons proclamer dans nos langues les grandes œuvres de Dieu. Que s'est-il passé lors du baptême de l'Esprit? L'Esprit de Dieu a mis en évidence par des langues étrangères que l'on n'avait pas apprises tout comme Jésus auparavant, après sa résurrection. Et à cela, je vous lis l'Écriture. Il s'était adressé à ses disciples, d'abord aux deux, et ensuite, pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples. Il est écrit, c'est par l'Esprit qui leur a donné les ordres, et cela déjà avant la Pentecôte. Je vous le lis. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 2 et 3. Jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, puis il fut enlevé. Remarquez-vous, déjà par le Saint-Esprit, Jésus disait, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore, et alors vous ne me verrez plus, mais je vous enverrai le Consolateur, et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous lisons ici, jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Déjà par la révélation de l'Esprit Saint, ils comprirent comment le mandat divin devait être accompli et exécuté. Pierre, par la révélation de l'Esprit, a très bien compris Matthieu 28, verset 19. Et c'est alors exclamé le jour de la Pentecôte. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Bien-aimés, nous avons besoin d'une nouvelle et puissante visite de grâce de Dieu. Où est votre amen? Où est votre amen? Devons-nous d'abord être immergés pour ensuite avoir vraiment faim et soif et crier? Et nous avons besoin de plus encore. Et que cette parole nous soit adressée en tant que frères et servants. Nous avons besoin d'une autorité divine dans notre service. Une autorité qui surpasse tout ce qui existe jusqu'à présent sur le marché chrétien. Il doit en être de cet exode, comme de l'exode de Moïse et de l'exode de Jésus-Christ. Et ainsi de suite, lorsque Dieu a fait des miracles plus puissants et plus grands que ce que tous les autres auraient pu faire. Au jour de Moïse, d'autres ont aussi fait quelque chose. Mais à la fin, le bâton que Moïse avait auparavant et qui était devenu un serpent pour pouvoir détruire tous les autres serpents était dans sa main. Et c'est ainsi que tous ces hommes autoproclamés ont été mis hors d'état de nuire. Ils n'avaient plus d'outils. Ils n'avaient plus le bâton fétiche ou ceci ou cela avec lequel ils pouvaient faire quelque chose. Tous leurs bâtons avec lesquels ils faisaient aussi des tours de passe-passe n'étaient soudain plus là. Ils étaient par terre et allaient et venaient comme des serpents. Et soudain, le bâton de Moïse les a tous détruits l'un après l'autre. Et ils ont regardé un peu bêtement ce qui se passait. Mais c'était déjà fait. C'était terminé. Le sort était jeté sur eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. Moïse, qui s'était présenté le premier, se présenta aussi à la fin avec l'autorité divine. Et Dieu n'a rien dû à son peuple. Il n'est pas resté sans réponse à son peuple. Il n'est pas resté sans répondre à son peuple. Croyez-moi, c'est ainsi que nous connaissons Dieu et c'est ainsi qu'il se manifestera aussi en ce temps dans lequel nous vivons. Il est écrit, dans les derniers jours, comme jamais chez Ambrès, plusieurs apparaîtront et feront beaucoup de choses, de grands miracles et des signes, ceci et cela. Ils égareront beaucoup de gens, mais ne craignez pas, dit notre Seigneur, car il en sera ainsi. Mais tout à la fin, la victoire de Dieu se manifestera dans l'église du Seigneur. Une foule achetée, rachetée par le sang, une église purifié, une église sanctifiée, une église baptisée du Saint-Esprit, ouinte, remplie, dotée de puissance, revêtue de la puissance, une église qui a reçu des langues de feu pour proclamer les grandes œuvres de Dieu. Cette remarque que je fais maintenant n'a pas sa place ici et je m'en excuse d'avance auprès de tous. Mais quand je vois encore le besoin que l'un a de rassembler d'autres autour de lui pour leur parler et les exhorter et leur dire ce qu'il sait, alors j'ai un sentiment d'oppression. Il me vient alors une pensée très étrange et je l'exprime maintenant. Puis me vient cette pensée. Frère, si tu avais compris ce que Dieu a réellement dit, tu le porterais dans ton cœur comme une révélation divine, comme un trésor si précieux. Et tu aurais compris ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas l'un qui enseignera l'autre, mais ils seront tous enseignés de Dieu. Et j'ai presque tendance à dire qu'en ce lieu, ni dans ce bâtiment, ni sur ce terrain, des interprétations de tonnerre ou quoi que ce soit d'autre ne sont diffusées. Rien n'a sa place ici. Aucun mélange d'autorité est autorisé. Cela n'a rien à voir avec un manque d'amour. Dieu est un Dieu saint et sa parole est une parole sainte et nous ne devons rien y ajouter. Combien d'interprétations sont déjà venues et reparties? Vous pouvez tous les oublier, ainsi que les interprètes, ceux qui interprètent. Vous savez ce qui est écrit sur les interprètes dans la Bible? Non. Nous réunissons ici pour être retirés de toutes les interprétations et pour être lavés dans le bain d'eau de la parole. Car Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Même les choses qui vont mal ici et là, laissez-les aller. Si Dieu ne change pas une situation, vous ne pourrez pas la changer. Vous emmêlez, vous vous enlissez et vous tombez dans des difficultés vous-même. Celui que Dieu ne prend pas, celui à qui il ne se révèle pas, celui qu'il n'instruit pas, celui-là restera inéducable jusqu'à la fin. Et de même que d'une part, parmi les vrais croyants, on va de clarté en clarté, de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, mais toujours dans la parole de Dieu et par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, jamais en dehors de la parole, mais toujours à l'intérieur de la parole. De même, en fait, depuis des années, des hommes tombent d'une interprétation à l'autre et en entraînent d'autres. Les hommes ne savent plus ce qu'ils doivent croire. Bien-aimés, que cela résonne clairement ici aujourd'hui par grâce à la gloire de Dieu. Aussi vrai que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, par la véritable semence de la parole de Dieu, de la parole et de l'Esprit de Dieu, et ainsi vrai que l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu, ainsi vrai, aussi vrai que nous sommes ici pour expérimenter directement comment toutes ces choses deviennent claires pour nous. Nous n'avons plus besoin de donner des leçons particulières, ni moi ni toi. Je suis heureux. Je voudrais encore le préciser. Lorsque je parle avec des gens, ce n'est pas pour parler de choses doctrinales de l'enseignement, mais simplement parce qu'ils ont quelque chose à dire ou à demander. Soyons raisonnables. Et je vous dis aussi pourquoi. Pas pour moi, mais l'Esprit du Seigneur doit tout de même parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance. Il faut qu'elle sorte de tout cela pour entrer dans la stature parfaite, dans l'âge de l'homme fait et mûr, et qu'elle cesse d'être ballottée au gré des vents de la doctrine, de toutes sortes de doctrines. Je viens de lire les lignes d'un frère bien-aimé de Hollande qui a écrit « Celui qui va à Krefeld doit mourir. » Celui qui va à Krefeld doit mourir, oui. Et ainsi de suite. Oui, je souhaite que nous mourions avec le Christ, vraiment, et que nous mourions avec lui, que le vieil homme ne soit plus là, et que nous ne soyons plus ceux qui parlent, mais que Dieu soit celui qui parle par nous, à travers nous. Ah, si cela pouvait arriver aujourd'hui, que Dieu vienne ainsi sur nous avec son esprit et que nous soyons remplis, que nous débordions de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que si l'Esprit est revêtu de la même puissance du Saint-Esprit, c'est seulement comme ça que pourront se produire les mêmes signes et miracles qui ont suivi l'Église et qui se sont produits au commencement. Est-ce vrai ou non? Car Dieu dit, ce n'est ni par des armes, par des armées ou par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur, cela aura lieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ni les prophètes, ni les apôtres, mais c'était l'esprit de Dieu qui a agi par eux. Puisse-t-il faire de nous de tels hommes qui marchent dans ses voies, qui croient en lui, qui lui font confiance, qui ne mélangent plus rien, mais qui reçoivent tout ainsi purement et clairement, qui conservent tout purement et clairement tel qu'ils l'ont reçu du Seigneur, jusqu'à ce que nous recevions ce revêtement de la puissance de Dieu et qu'une heure semblable à celle du Carmel arrive et que la décision divine tombe et que le Seigneur en sorte comme le grand vainqueur. Et nous, avec lui, nous ne chantons pas seulement « Jésus est vainqueur ». Il est le vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a écrasé la tête de Satan, le serpent ancien. Jésus est vainqueur. Qu'il le devienne dans ta vie et dans la mienne, dans la nôtre. Et que sa parole s'accomplisse en nous et à travers nous tous. Loué soit son Saint-Nom. Amen.